Josette Sédou.
Bonjour, on démarre sur un succès, même diminué par les nombreuses absences. Le HC Bienne a réussi à maintenir la cadence. Les hockeyeurs célandais sont allés s'imposer 1-0 à Genève hier soir en National League au lendemain de leur succès 2-1 après prolongation face à Ambry. Leur 8e victoire en 10 matchs alors que le HCB comptait 7 blessés majeurs et n'alignait que 4 joueurs étrangers. Les Biennois ont planté le but de la victoire à 32 secondes de la sirène finale par Yannick Stempfli. Les voilà 4e du classement de National League à la trêve internationale. Qui l'eût cru il y a quelques semaines? Même l'entraîneur Martin Philander, ça vous surprit?
Non, pas franchement, je ne m'y attendais pas du tout. J'espère toujours et je crois toujours en mon équipe et en ce que nous faisons, évidemment. Mais normalement, tout cela prend un peu plus de temps. J'en suis encore au point de me dire que nous devons nous améliorer pour maintenir ce niveau. On doit être humble par rapport à ça, mais je suis très heureux de notre position actuelle. Tous les points déjà pris, on ne peut pas nous les enlever. Et ça nous donne de la confiance en tant que groupe, ce que nous faisons. Nous aide à gagner des matchs, mais tout le monde le sait que c'est un marathon de 52 km, 52 matchs. Nous ne sommes qu'au kilomètre 19 et on ne fait pas toujours le même tour dans la ville. La suite sera différente. Donc je crois que ce qui est important pour nous, c'est de vivre le moment, un jour à la fois, ne pas trop se projeter et tâcher de progresser chaque jour.
Propos recueillis et traduits par Jérémy Pignard. Le HC Bienne a désormais droit à 2 semaines de pause avant la reprise du championnat à Lugano le 15 novembre. 2 Biennois vont partir en sélection. Il s'agit des Finlandais Toni Rajala et Ari Seteri avec une incertitude pour le gardien annoncé malade hier soir. Le HC Tramelan continue son début de saison quasi parfait en Première Ligue. Il a battu Valledjou 7-3 hier en début de soirée à l'Allianz Arena. Les Requins s'offrent un 6e succès en autant de rencontres de championnat. Ils sont 2e avec 17 points à une unité du leader Guin qui a joué 3 matchs de plus. Le HC Saint-Imier s'incline au bout du bout dans un derby régional de 2e ligue. Les hockeyeurs imériens ont perdu 4-3 après prolongation contre la réserve du HC Franche-Montagne. Ils conservent leur 4e rang à 5 points de la tête. Et en football, les équipes relégables de 2e ligue ont vécu un samedi compliqué. La réserve de Bezabienne a perdu 1-0 contre le 6e Günstern. Moutier s'est lui incliné 6-2 à Vorbe. Et ça s'est bien passé en 3e ligue pour le FC La Neuville-Lamboin. Il a battu Egerton-Bruck 7-0 et remonte au 3e rang. Sur quel combustible miser pour quitter les énergies fossiles comme le gaz et le mazout? Les regards se tournent tous vers les forêts qui peuplent la région. Les communes du Jura bernois ont fait le choix du bois pour leur chauffage à distance. Pourtant, le bois est aussi appelé à devenir une matière rare à l'avenir. Alors, quelle source de chaleur choisir? David Vieille, chargé de projet au Centre d'énergie, Conseil Centre en énergie, organisé par l'association jurabernois.bienne.
Alors ce qu'il y a, c'est que dans le Jura bernois, on n'a pas 1000 possibilités non plus. On n'a pas de lac où on peut récupérer de l'énergie. On n'a pas non plus de centrale d'incinération des déchets. On n'a pas de gros rejets thermiques d'entreprise ou comme ça. Donc en gros, il nous reste le bois, il nous reste les pompes à chaleur. Donc le bois, c'est une ressource qui est très utile et puis voilà, dont on aura besoin encore un moment dans le Jura bernois.
On voit que l'Office fédéral de l'environnement a fait un inventaire forestier à la fin 2022. L'accroissement a diminué de 12,8%. Du coup, est-ce que ça fait toujours du bois une source renouvelable?
Alors le bois sera toujours une source renouvelable. Après, tout dépend de comment exploiter la forêt aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a pas mal d'aléas climatiques aussi. On a des sécheresses, on a des tempêtes qui font que d'un seul coup, on a beaucoup de bois à disposition pour brûler, qui ne sont plus disponibles pour la construction. Donc ce bois-là, il vient souvent comme bois énergie. Mais c'est vrai que l'accroissement naturel, il est à peu près stable. Enfin, il a peut-être tendance à diminuer à certains endroits, mais il reste quand même à peu près stable. Par contre, il ne suffira jamais à alimenter tous les bâtiments qui sont actuellement chauffés au mazout ou au gaz, qui représentent à peu près 70% des bâtiments de la région.
D'ailleurs, selon une étude au niveau national, actuellement, le chauffage sollicite le 80% des réserves de bois des forêts suisses. Alors si tous les projets de chauffage à bois se réalisent, dans les prochaines années, le 100% sera dépassé. Par exemple, dans la commune de Sonsbeau, qui planche sur un projet de chauffage à distance alimenté par le bois, on n'est pas indifférent à ce problème. Claude Audercet, conseiller municipal.
Il y a une inquiétude au sujet, on va dire, de l'insuffisance de nos forêts, effectivement. Il est vrai que si toutes les communes de Suisse font ça, on n'y arrivera pas. Ça, c'est certain. Nous, dans la réflexion de ce projet, c'était de le faire avec du bois, parce qu'on en a chez nous. Si vous prenez une grande ville où ils n'ont pas autant de forêts que nous, on a en proportion du nombre d'habitants, ils ont peut-être mieux, eux, à chercher autre chose que nous, les forêts, parce que nous, on en a des forêts ici. C'est un peu cette réflexion-là, c'est un peu égoïste par rapport à ceux qui ont moins de forêts, mais si on cherche à avoir un quotient de rendement de bilan carbone, il est logique que nous, on exploite ce qui est à notre portée.
À Bienne, la question du chauffage au bois a aussi occupé le conseil de ville. À la différence du Jura bernois qui ne peut pas compter sur l'eau du lac comme source de chaleur par exemple, Bienne a cette alternative en plus. Mais le conseil municipal n'a pas jugé juste d'arrêter l'extension des chauffages à distance au bois. La maternité de Saint-Imier fêtait ses 90 ans ce week-end. Depuis 1934, il y a eu entre 8 et 10 000 naissances dans ce lieu qui s'est bien transformé au fil des décennies. En même temps que la technologie médicale, les pratiques ont radicalement changé. Avant, la mère et l'enfant étaient souvent séparés très vite après l'accouchement, en particulier en cas de césarienne, selon Astrid Aubin, sage-femme, chef de l'unité obstétrique et gynécologie de l'hôpital de Saint-Imier. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On écoute Astrid Aubin.
On va essayer de montrer le bébé assez rapidement à la patiente, de quand même faire du pot à pot avec le bébé juste après pour que la mère et l'enfant ne soient pas séparés et mimer l'accouchement voix basse.
Et ça, ça fait une grande différence sur ce lien?
Alors ça fait vraiment une différence. Des études ont été faites là-dessus et puis le ressenti des femmes est vraiment amélioré lorsqu'elles peuvent voir leur enfant après la césarienne, lorsqu'elles peuvent faire du pot à pot ou par exemple faire les premières mises au sein et qu'il n'y ait pas une trop grande distance entre le moment de la naissance et le moment où la femme revoit son enfant. D'ailleurs, c'est prouvé que ça diminue le risque par exemple de dépression postpartum.
J'ai l'impression qu'une maternité, à l'époque, c'était un peu des murs blancs, des carreaux blancs. Et puis maintenant, ça a totalement changé.
Alors bah, justement, effectivement, l'image collective, c'est celle que vous avez, vous. Et on avait envie de changer un petit peu cette façon de voir la salle d'accouchement. Et de par les études aussi, on se rend compte que d'avoir de grandes images avec des paysages, des forêts, ça peut en tout cas apaiser et permettre d'avoir un climat plus serein en salle d'accouchement. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire un clin d'œil à la région et qu'on a installé de grandes photos en salle d'accouchement, notamment par exemple du Chasseral.
Astrid Aubin, sage-femme, chef de l'unité obstétrique et gynécologie de l'hôpital de Saint-Imier. Plus de 150 curieux sont venus visiter cette maternité pendant la journée porte ouverte hier. Et quelques futurs parents étaient parmi eux et sont venus voir les salles d'accouchement et rencontrer le personnel. Une retraite qui n'est pas une pour René Prêtre, le chirurgien d'origine jurassienne, était hier en Ajoie pour une conférence et une soirée de gala en faveur de son association Le Petit Cœur. René Prêtre avait annoncé sa retraite pour l'été 2022, tout en souhaitant conserver 2 ou 3 jours opératoires par semaine au CHUV. L'établissement hospitalier lausannois lui a toutefois demandé d'être davantage présent depuis quelques mois au sein du service de chirurgie cardiaque pédiatrique. René Prêtre travaille ainsi à nouveau, quasiment à plein temps. Il poursuit en parallèle ses activités humanitaires et revient d'un voyage en Afrique. René Prêtre évoque l'évolution de son action au Mozambique.
Moi, j'ai commencé en 2006 là-bas, donc vous voyez, ça fait beaucoup. J'y vais même mettre 2 fois par année maintenant. Ce qui a beaucoup changé, ben c'est sûr que les gens sont toujours mieux formés, font des opérations toujours plus larges en quelque sorte. J'ai très vite compris depuis un bon moment que quand j'y vais, c'est pour faire les opérations difficiles parce que les saints, ben, effectivement, ils les ont réalisées eux-mêmes. Et ils apprennent beaucoup en voyant faire ce genre d'opérations, sans compter qu'eux-mêmes, après, sont capables d'entrer dans ce terrain et de progressivement maîtriser ces cas plus compliqués. Et ça, ça fait partie de cette formation qui s'étale sur plusieurs années, mais entre deux, ils sont assez actifs. Voilà, ça c'est les grands changements que j'ai vus, si vous voulez, c'est que la sélection des enfants est plus compliquée à faire, mais ça, ça fait partie du jeu en quelque sorte.
Pour vous, c'est vraiment une source de fierté d'avoir mené ces projets à l'étranger et surtout d'avoir formé du personnel, des médecins pour réaliser ce type d'opération?
J'ai jamais fait un classement, si vous voulez, du mérite de ce que j'avais réussi, j'ai pas tout réussi. ici non plus. C'est sûr que je pense avoir fait du très bon travail ici, mais si je dois sortir un peu quelque chose en exergue, c'est presque justement cette implication au Cambodge où ça marche extrêmement fort, extrêmement bien. Ils font tout seuls 400 opérations par année maintenant, ou alors au Mozambique, ils en font un peu moins, mais ils sont assez autonomes et quelque part, comme on dit de temps en temps, je leur ai pas donné le poisson, mais la canne à pêche, et ils savent sortir le poisson eux-mêmes maintenant. Et ça, bien entendu, ça a plus d'impact en quelque sorte. C'est là peut-être que mon action aura eu la plus grande dimension.